Nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aller à l'Égypte. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de trop parler de l'Égypte ancienne, mais enfin, le sujet d'actualité, et je pense que vous l'avez tous vu, c'est l'inauguration du grand musée égyptien, une inauguration qui avait été reportée plusieurs fois. Donc, il s'agit d'un bâtiment très important, dont l'acronyme est GEM, Great Egyptian Museum, et donc c'est le musée qui va remplacer l'ancien musée du Caire qui avait été construit au 19e siècle par un architecte français. Et ce grand musée a fait l'objet d'un concours international il y a 20 ans. Et sa construction a été un peu compliquée parce que l'Égypte a eu des problèmes à la fois politiques, puisque c'est Moubarak qui l'avait lancé, ce grand projet. Et il y a eu le changement avec le maréchal Sissi actuel. Et aussi, il y a eu, ce que vous savez, les guerres. Et jusqu'au dernier bombardement de l'Iran, qui a aussi arrêté, ou plutôt reporté, l'inauguration du musée. Donc, il s'agissait d'un concours qui avait été lancé sur le plan international et qui a été remporté par deux architectes américains, en fait d'une agence américaine, d'une agence de New York, mais dont les origines ne sont pas très très américaines. Il s'agissait donc d'une femme, alors je ne sais pas, elle était à l'époque jeune femme, mais il y a 20 ans, évidemment, le temps a passé, qui s'appelle Roisin Hennigan et qui est née à Dublin, et un architecte né à New York qui s'appelle Shifu Peng et qui est d'origine chinoise. Alors actuellement, ils ont quitté New York depuis, je crois, une dizaine d'années, et ils sont dans deux pays. En Irlande, donc, à Dublin, qui était la patrie de cet architecte femme, et également à Berlin. Et donc, c'est une agence, on peut dire, de type américain, importante, avec, pour la construction, un consortium d'entreprises belges et d'entreprises égyptiennes locales pour ce chantier. Alors, vous avez certainement vu les images de l'inauguration qui étaient, on peut dire, un peu kitsch, avec des drones qui reprenaient les emblèmes de l'Égypte antique. Mais ça fait partie des festivités normales pour l'inauguration de ce grand musée. Alors, on va en venir au coût de l'opération. La durée, je vous en ai parlé. Mais on peut dire que ce n'est pas une erreur des architectes, mais des circonstances historiques particulières et locales. Et on peut dire aussi que le coût, en parallèle, a augmenté, mais sur une durée de 20 ans. Et on a parlé d'un coût pharaonique de 1 milliard de dollars. Alors évidemment, le milliard tout de suite, c'est une somme extraordinaire qui semble du moins extraordinaire, mais il faut le ramener déjà à 1 euro. Alors 1 euro, ça fait 862 millions d'euros. Et cela pour le plus grand musée archéologique, ou en tout cas dédié à une civilisation. Il y a mais aussi par ses dimensions, ça s'approche des plus grands musées du monde, le Metropolitan, le Louvre, etc. Donc c'est un énorme projet très impressionnant et qui abrite notamment les grandes statues et donc avec des hauteurs sous plafond de 38 mètres, avec des verrières. Enfin, c'est un bâtiment d'une grande complexité. Pourquoi je vous parle de ce prix de 862 millions d'euros. Parce que, en même temps, il y a eu une communication de la Cour des comptes française pour féliciter le chantier de Notre-Dame. Et le chantier de Notre-Dame, on a félicité pour le coût qui était semblable, puisqu'il s'agissait de 858 millions d'euros, donc on a des coûts tout à fait semblables, et une durée qui était de 5 années. Alors, je rapproche les deux événements, où on a l'impression de dire que le coût est pharaonique pour le musée égyptien, et on a les félicitations de la Cour des comptes, qui est donc l'organisme qui vérifie la comptabilité publique. Et je peux m'étonner de cette comparaison qui n'émeut personne, parce que d'un côté on construit un immense bâtiment complexe et neuf, et de l'autre côté on n'a pas, contrairement à ce qui a été dit, rebâti Notre-Dame, on a simplement fait une restauration après un incendie accidentel. Alors, les mots ont un sens en français. Quand on parle de rebâtir, ça veut dire, par exemple, Le Havre a été pendant la guerre détruit et Le Havre a été rebâti. C'est-à-dire qu'on a totalement reconstruit la ville. Et le mot rebâtir est employé par les journalistes, mais bien sûr par le président de la République qui, dans ses différents discours, emploie ce mot, et il emploie le mot rebâtir, il emploie le mot reconstruire, et par exemple, et pour l'inauguration, ou du moins quand il reçoit les ouvriers de la reconstruction, entre guillemets, il dit nous avions dit que nous la rebâtirions ensemble et c'est une part de notre destin français. Alors là, évidemment, les mots sont grandiloquents et il se félicite, il le prend lui-même comme un exploit personnel. En 5 ans, Notre-Dame fut reconstruite, rebâtie, plus belle encore qu'elle n'était. Alors, je tiens à être un peu rabat-joie et rappeler que si on compare la construction ex nihilo à partir d'un terrain vierge du grand musée pour une somme équivalente à la réparation, parce qu'il s'agit de réparation, il s'agit de restauration. Il y a eu un incendie de la charpente qui ainsi a fait tomber la flèche. La flèche, en tombant, elle a croisé les transepts, a perforé la voûte, et donc il y a eu un trou dans la voûte, essentiellement. Donc, le grand orgue n'a pas été touché, les tours ne sont pas tombées, et il n'y a eu que cette flèche qui était en fait pas d'origine, datée du 19e siècle, avait été construite par Viollet-le-Duc, et donc on a reconstruit la flèche. Pour cela, on peut dire que cet incendie, aussi spectaculaire qu'il fut, n'a pas détruit la cathédrale. Et donc, on a eu 5 ans de travaux avec, on peut dire, vous avez vu des films sur cela, avec, pour tout dire, je pense, pas mal d'excès. On avait dû au don 850 millions, et donc il fallait les employer. c'est une somme quand même qui est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le milliard de dollars, c'est une somme très importante, et pour une restauration et pas pour une reconstruction. Il s'agissait de quelque chose d'assez on ne peut pas dire que c'était marginal, mais en fait, on était bien loin de ce que l'on aurait pu craindre, c'est-à-dire le déséquilibre désarboutant et ce qui s'est passé dans l'histoire sur des bâtiments, le bâtiment qui s'effondre entièrement. Auquel cas, effectivement, c'est une autre affaire. Alors, quand le président Macron parle que nous avons été attaqués et je ne vois pas très bien quelle est l'attaque. Il y a eu simplement un incendie de la charpente, et un incendie de la charpente, c'est quelque chose qui est accidentel, et la question de qui a fait cet accident, d'une part, n'a pas été résolue, malgré l'enquête, et surtout, la question essentielle, et là où je vais en venir aujourd'hui, c'est le problème de la sécurité de nos bâtiments publics, avait été complètement négligé. Alors, la sécurité, et on va parler en même temps de l'incident du Louvre, et c'est un problème très important dans les bâtiments, et c'est totalement impensable que la charpente que l'on savait être totalement en bois inflammable n'ait pas été protégée par les systèmes aujourd'hui qui sont très performants. Avant, effectivement, on avait des incendies qui étaient très réguliers des bâtiments parce que on avait du mal à les éteindre. On n'avait pas la puissance d'extinction qu'ont à la fois les extincteurs aujourd'hui chimiques, mais aussi surtout de l'eau. L'eau n'était pas sous pression, et vous souvenez sur des images où l'on voit même au 19e siècle les pompes où les pompiers font monter la pression, et aujourd'hui toutes les bornes d'incendie que nous avons partout sont à une très grande pression, donc aujourd'hui les incendies arrivent à être maîtrisés d'une manière très facile, tandis qu'avant on charriait des seaux, enfin on avait des problèmes très importants par rapport à cela. Donc c'est d'autant plus grave que nous avons également une chose qui n'existait pas il y a encore quelques décennies, c'est la performance des détecteurs. Aujourd'hui, il y a des détecteurs d'oxyde de carbone, et il est impensable que les détecteurs sur la charpente n'aient pas été certainement posés et n'aient pas averti. Un détecteur aujourd'hui, domestique, ça vaut 4,50 €. Et on peut dire les plus performants, ils valent 40 € avec détecteurs de monoxyde de carbone. Et c'est des choses que on s'est rendu compte que le Louvre, par exemple, n'avait pas cette protection aujourd'hui après le vol. Donc c'est une chose totalement impensable. Donc je vais en finir avec Notre-Dame, et on va passer après la pause musicale au problème de sécurité du Louvre. Mais comme je vous disais, les envolées lyriques du président sur Notre-Dame et sur le symbole que l'unité de la nation dépend de la reconstruction de Notre-Dame me paraissent bien, on peut dire, dérisoires par rapport au manquement de l'État. Et nous allons continuer sur ce sujet. Thank you. Donc, le sujet sur la sécurité des bâtiments publics est lié aussi au problème de l'utilisation de l'argent public, à la fois dans les travaux, dans ce qui est la sécurité. Et il semblerait que, on peut dire généralement dans notre pays, on n'ait plus envie de faire des bâtiments de prestige, de ce qui se voit, et en délaissant ce qui ne se voit pas et qui est nécessaire et utile. Alors, je vous parlais du rapport de la Cour des comptes qui félicitait la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bon, ces félicitations me semblent bien excessives parce que le budget est totalement disproportionné avec les travaux à faire, mais ça faisait partie d'une sorte de saga, on peut dire, nationale qui a été prise par le président de la République. Mais il faut souligner d'une part les manquements de l'État et d'autre part aussi, on peut dire, l'excès de cette reconstruction. On a tenu à faire la charpente à l'identique, tandis qu'une charpente qui ne se voit pas aurait dû être faite en matériaux modernes et aurait été très vite reconstruite avec un coût très faible. Donc on a fait un grand cinéma, on a pris 1000 chaînes dans la France, on a reconstitué ça avec les techniques du Moyen-Âge, comme si ça avait un sens de se servir des techniques du Moyen-Âge, on pourrait ne pas aussi se servir des grues et des montecharges. Tout ça est assez imbécile, et ce qui est surprenant, c'est que la presse ne l'a pas souligné, que tout le monde est rentré dans cette espèce de mythe national où on se félicitait. Alors, la Cour des comptes, par contre, a eu un rapport qui est paru la semaine dernière, qui était totalement négatif et une sorte de critique très très forte sur le Louvre et sa sécurité, d'une part, après le vol dont j'ai déjà parlé dans une autre émission, et également sur le projet, on peut dire, initié par le président de la République, en fait je ne parle que de lui décidément, c'était de créer une nouvelle entrée du Louvre. Alors, on sait déjà que l'ancien président Mitterrand avait fait avec la pyramide du Louvre une entrée très visible et qui avait été à son époque extrêmement commentée, critiquée, sujet de polémique. Et là, on a un projet qui va être aussi sur une estimation du milliard. Décidément, le milliard est une unité, le milliard d'euros est une unité très facile, et on va faire pour le prix du musée du Caire une nouvelle porte au musée du Louvre. Je ne sais pas si vous voyez l'incongruité de la chose. Et donc, le rapport présenté par le président de la Cour des comptes, M. Moscovici, est très sévère sur les manquements de la sécurité, où il souligne qu'en fait, les dépenses ont été des dépenses à la fois d'acquisition d'œuvres, quand on sait que les sous-sols du Louvre et les réserves du Louvre sont énormes par rapport à ce qui est exposé. Alors c'est très bien d'acheter des talos, mais enfin, on ne doit pas faire cela à la place de la sécurité. Et le Louvre, on le sait, je pense que n'importe quel visiteur, si on quitte les salles encombrées et on va dans les parties moins visitées du Louvre, notamment celle des antiquités, de l'archéologie, on voit qu'il y a très peu de surveillance. Les appareils de sécurité, apparemment, sur les tableaux ou les distances, il n'y a pas du tout les équipements modernes que nous avons aujourd'hui. Et il faut aussi dire, contrairement à ce que disaient les journalistes, ça ne coûte pas très cher. C'est que aujourd'hui, on a des progrès que tout le monde a, puisque on sait qu'on peut s'équiper soi-même d'une manière très très simple avec des caméras, des enregistreurs, des signaux d'alarme qui demandait beaucoup d'argent avant. On sait cela. Par exemple, si on regarde les films anciens, on voit les anciens magnétoscopes en bande qui enregistraient avec des caméras qui étaient lourdes et très chères, et qu'aujourd'hui, les petites caméras que l'on peut trouver dans n'importe quel magasin ou sur les sites chinois valent rien du tout. Donc, on a paradoxalement les coûts de sécurité qui ont baissé d'une manière extrêmement importante, la facilité d'installation de ce fait avec la Wi-Fi, on n'a plus besoin des câblages d'avant. En fait, il y a d'énormes progrès et le Louvre, lui, pense à créer des nouvelles entrées, des salles pour recevoir les personnalités et des cuisines, en fait, toutes dépenses de communication, et en négligeant l'essentiel. Et ça, je pense que c'est une métaphore de notre pays. Je ne voudrais pas être trop négatif aujourd'hui, mais on pense beaucoup plus à ce qui peut être le spectacle qu'aux nécessités de la nation qui ne se voit pas. Donc, je crois que l'exemple du Louvre et de Notre-Dame de Paris montre comment on peut dire, vous me permettez l'expression, trafiquer l'information en parlant de rebâtir une cathédrale comme si ça s'était jamais fait depuis 1000 ans, attendu que avec l'argent des dons qui ont été faits, on aurait pu faire un fonds commun pour, par exemple, les cathédrales gothiques de France, qui effectivement en ont bien besoin, ne serait-ce que sur le plan de la sécurité qui manquait à Notre-Dame, et on est à se glorifier pour, en fait, avoir bouché un trou dans la toiture et dans la voûte de Notre-Dame pour 1 milliard d'euros. Donc, c'est un constat, on peut dire, pessimiste que je fais, qui pourrait être généralisé dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire qu'on a à la fois la presse, les hommes politiques, qui reprennent la même ancienne, qu'en fait, dans les grands bâtiments publics, ça coûte très cher. Quand on départ, il est normal de dépasser les délais, il est normal de dépasser les coûts. C'est quelque chose d'admis. C'est-à-dire que pour un petit projet, donc on le maîtrise, mais les grands projets, il est normal d'avoir des coûts exponentiels et qui explosent. Et d'ailleurs, la Cour des comptes a fait un rectificatif par rapport à l'estimation qui avait été donnée par Emmanuel Macron lui-même et la présidente du Louvre, en la rectifiant, en disant que ça coûtera, je crois, 30% de plus, et ça fait partie des choses qui sont admises. Alors, rappelons-le que ce qui est admis dans les bâtiments et en architecture ne l'est pas dans la vie courante. Je ne sais pas, je prends un exemple, par exemple, au hasard. Si on organise une compétition cycliste ou de football dans un village, bon, on sait qu'on n'a pas les moyens de tout contrôler. Par contre, le Tour de France, ben, il n'y a pas un pépin. Tout est organisé. C'est-à-dire que plus c'est important et pour une Coupe du Monde ou pour un événement important, il y a une logistique très importante. Et notre pays sait très bien le faire, comme on l'a vu avec les Jeux Olympiques. C'est-à-dire plus l'événement est important, plus on met les moyens. Et nous avons aujourd'hui les moyens à la fois techniques, à la fois humains, pour maîtriser les coûts. Alors donc, pourquoi ces grands projets de l'État, eux, auraient le droit de dépasser avec une sorte de bénédiction générale, à la fois des politiques et à la fois du journalisme? Voilà, donc je vais terminer sur cette question qui me paraît être beaucoup plus générale que la seule architecture et pose une question sur la manière dont on gère les deniers publics dans notre République. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie l'excellent Sacha qui était à la technique et les spectateurs attentifs, Sophie et Darine aujourd'hui.